Bonjour et bienvenue dans cet exposé sur le fonctionnement d'Internet. Je vais commencer par vous montrer un tour de magie. Dans le navigateur web Firefox, j'entre l'adresse lutte-ouvrière.org, j'appuie sur Entrée et là le site s'affiche. Je le refais si vous n'avez pas bien vu, je clique sur ce lien et à nouveau une page s'affiche.
Alors, peut-être que vous ne trouvez pas ça très impressionnant parce que vous le faites vous-même des dizaines de fois par jour. Mais en fait, c'est un véritable tour de force. Pouvoir en une fraction de seconde récupérer un éditorial qui a peut-être été publié il y a seulement quelques minutes, et ce depuis le monde entier, comment est-ce que c'est possible? C'est grâce à Internet, cet immense réseau d'ordinateurs reliés entre eux. C'est un outil formidable dont on aurait bien du mal à se passer aujourd'hui. Mais en fait, il n'a rien de magique. C'est une invention humaine qui offre les applications les plus précieuses, comme la collaboration scientifique internationale, mais aussi les applications les plus inutiles, voire nuisibles, comme la spéculation financière à toute vitesse. Ce qu'Internet permet de faire ou pas, c'est pas qu'une question de technique, c'est surtout une question de choix social. Le but de cet exposé, c'est de comprendre le fonctionnement d'Internet, son développement et les problèmes de sécurité qui peuvent se poser. Le fil conducteur, ce sera de découvrir ce qui se passe entre le moment où je clique sur le lien du site web et le moment où la page s'affiche dans mon navigateur. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un site web? Quand on regarde la page du site Lutte Ouvrière, on voit des choses qui nous sont familières. Du texte, des images, exactement comme les fichiers sur notre ordinateur. Le site web de Lutte Ouvrière, c'est aussi des fichiers qui sont stockés sur un autre ordinateur que le nôtre. On dit que cet ordinateur héberge le site web. Alors comment est-ce qu'on accède au site web? À un bout, un utilisateur, qu'on va appeler Alice, demande à accéder au dernier éditorial du site de Lutte Ouvrière. Sa demande, on dit une requête, est transmise via Internet à l'ordinateur qui héberge le site web. Ensuite, l'ordinateur renvoie le texte de l'éditorial, les images et le reste du contenu. Dans toute la suite, le but, ça va être d'affiner ce schéma, de comprendre ce qu'il y a dans le nuage. L'ordinateur qui héberge le site web, il est un peu particulier. C'est un ordinateur exactement comme le nôtre. Il fait tourner des programmes, il a de la mémoire. On l'appelle serveur, parce que son rôle, c'est, comme dans le schéma précédent, de répondre aux requêtes des ordinateurs qui se connectent à lui. En général, ces serveurs sont regroupés avec des milliers d'autres serveurs dans des armoires qui sont situées dans des bâtiments immenses qu'on appelle des centres de données ou des data centers. Les serveurs, ils ont en général une forme horizontale qui permet de les empiler les uns sur les autres, mais même si un serveur n'a pas la même forme que les ordinateurs dont on a l'habitude, c'est exactement comme un ordinateur. Et d'ailleurs, c'est tout à fait possible d'utiliser son ordinateur chez soi comme un serveur pour héberger un site web. Donc on en est là. Pour afficher le contenu d'une page web, mon ordinateur fait une requête auprès d'un serveur via Internet et le serveur renvoie le contenu de la page. Comment est-ce que la requête va parvenir jusqu'au serveur? On entend souvent qu'Internet, c'est virtuel, dématérialisé. On parle du cloud, l'informatique en nuage. Et on peut parfois avoir l'impression que tout ça n'est pas réel. Mais en fait, si. Pour que des données circulent, si on regarde à une échelle microscopique, il faut que de la matière se déplace. Ça peut être des électrons, ces particules physiques dont vous avez sans doute déjà entendu le nom, qui créent un courant électrique quand ils se déplacent dans un fil de cuivre. Ça peut être aussi d'autres particules, qu'on appelle des photons, qui transportent la lumière dans les fibres optiques, ou les ondes électromagnétiques quand on se connecte en Wi-Fi ou en 4G. Pour faire circuler entre deux ordinateurs du texte, de la musique et même de la vidéo, on va encoder ces données en binaire, c'est-à-dire qu'on va les représenter sous forme de 0 et de 1. Ceux qui connaissent le code Morse, c'est la même chose. On peut représenter toutes les lettres de l'alphabet avec uniquement deux symboles, un point et un trait. Ici, c'est un 0 et un 1. Et ensuite, on va communiquer ces 0 et ces 1, par exemple dans un câble en cuivre, en alternant des périodes de temps où on fait circuler du courant et des périodes où le courant ne circule pas. L'ordinateur, à l'autre bout du câble, mesure le courant qui passe ou ne passe pas, et en déduit les 0 et les 1 qui lui permettent de reconstruire le texte, l'image ou la vidéo. Puisque la transmission des données se fait par un déplacement de matière, la vitesse à laquelle la transmission peut se faire est directement reliée aux propriétés physiques des câbles utilisés ou de la fréquence des ondes. On peut comparer la façon dont les transmissions se faisaient en 2000 et aujourd'hui. Je parle de la France ou d'un pays riche similaire, les statistiques sont très différentes pour les pays pauvres. En 2000, les foyers en France reliés au réseau Internet s'y connectaient principalement via le réseau téléphonique, c'est-à-dire que les données échangées entre ordinateurs circulaient à travers les lignes téléphoniques. Si vous avez déjà entendu le son que je vais vous jouer, c'est probablement que vous avez utilisé ce type de connexion. La vitesse de circulation des données était alors limitée à 56 kilobits par seconde, c'est-à-dire 56 000 bits par seconde. Le bit, c'est une unité de taille informatique. Et pour avoir une idée, un fichier qui contient une seule lettre y fait 8 bits. Une vidéo en qualité moyenne d'environ 1h30, c'est 700 mégabits, 700 millions de bits. Et donc, en faisant le calcul, c'était impossible à l'époque de télécharger une telle vidéo en moins de 3h30. Et en pratique, ça prenait plusieurs dizaines d'heures. Entre 2000 et 2020, les scientifiques ont mis au point une nouvelle technique qui permet de faire circuler l'information sous forme de lumière dans les fameuses fibres optiques, ce qui est beaucoup plus avantageux parce que ça permet d'atteindre des vitesses de transmission bien plus élevées, jusqu'à 100 gigabits par seconde. Le film qu'on mettait 40 heures à télécharger en 2000, on le télécharge aujourd'hui en quelques secondes. Ça a bouleversé notre usage d'Internet. On est habitué à regarder des films en streaming, c'est-à-dire qu'on ne télécharge pas la vidéo au préalable sur notre ordinateur, on la regarde en même temps qu'on la télécharge. Pour que ce soit possible, il faut que la durée de téléchargement du film soit inférieure à la durée du film. Si un film dure 1h30 et qu'il faut 40 heures pour le télécharger, on ne pourra pas le regarder en streaming. Il y aura forcément des coupures. Donc en 2000, compte tenu de la technique dont on disposait, c'était physiquement impossible de regarder un film en streaming. Si depuis des services comme Netflix sont apparus, c'est pas parce que du jour au lendemain, un génie s'est dit, tiens, si on contournait les cinémas et la télévision en donnant accès à des milliers de films en direct aux internautes, ça s'est pas du tout passé comme ça. Pour que Netflix apparaisse, il fallait au préalable toute une évolution de la technique dans la transmission des données pour atteindre une certaine vitesse seuil. Bon, mais tout ça ne nous dit toujours pas comment la requête que j'adresse au serveur pour lui demander une page ou une vidéo lui parvient. Pour communiquer avec un autre ordinateur sur le réseau, la première chose à faire, c'est de savoir à qui s'adresser. Quand on téléphone à quelqu'un, il faut connaître son numéro pour le joindre. Eh bien, sur Internet, c'est pareil. Chaque ordinateur connecté dispose de l'équivalent d'un numéro qu'on appelle l'adresse IP. Si vous regardez cette vidéo en ligne ou que vous l'avez téléchargée, vous vous êtes connecté à Internet et donc vous avez vous aussi une adresse IP qui vous est fournie par votre fournisseur d'accès à Internet, que Orange, Free, Bouygues, etc. Vous pouvez facilement la retrouver en allant par exemple sur le site ipleak.net. Vous voyez que mon adresse IP, c'est 58.92.13.221. Cette adresse IP, elle contient 4 nombres qui sont compris entre 0 et 255, ce qui fait en tout environ 4 milliards de possibilités. 4 milliards d'adresses différentes. Aujourd'hui, c'est plus assez pour attribuer une adresse à toutes les machines qui se connectent. Peut-être qu'en plus de votre ordinateur, vous utilisez un téléphone ou une tablette. Et donc pour fournir une adresse IP à chacune de ces machines, 4 milliards, c'est plus assez. Et il faut faire du rafistolage. Mais à terme, le format actuel des IP va être jeté à la poubelle, au profit d'un nouveau format, pour offrir une plage beaucoup, beaucoup plus large. Alors on peut se dire que ceux qui ont inventé l'IP dans les années 1970, ils n'étaient pas très prévoyants. Il y avait déjà plus de 4 milliards d'habitants sur la Terre. Sauf qu'à cette époque, l'ancêtre d'Internet était utilisé par seulement quelques milliers d'ordinateurs pour des applications militaires. Ces concepteurs, ils n'anticipaient absolument pas, et ils ne pouvaient pas anticiper que ce serait aujourd'hui un moyen pour faire de la visioconférence d'un point à l'autre du globe ou pour accéder à un moteur de recherche qui indexe des milliards et des milliards de pages. Alors c'est quelque chose qui n'est pas propre à l'histoire d'Internet. Qu'on pense à l'invention du feu, de l'agriculture, de la roue, ces découvertes, elles ont été faites généralement parce que les sociétés humaines, elles avaient un problème particulier qu'elles ont résolu en utilisant les connaissances de leur époque, voire en les révolutionnant parce que ces connaissances, elles étaient plus adaptées, mais sans anticiper sur la suite. Pour la roue, par exemple, quand elle a été inventée, on ne savait pas qu'elle permettrait le déplacement de voitures motorisées à 150 km/h. Et ça aurait pas de sens de reprocher à la roue mésopotamienne d'il y a 5000 ans de ne pas pouvoir faire rouler une Porsche Cayenne. Plus proche de nous, le téléphone. Quand il est apparu à la fin du 19e siècle, les numéros de téléphone comportaient seulement 5 chiffres. Il a fallu régulièrement augmenter quand ça n'était plus suffisant pour numéroter tous les utilisateurs, notamment avec l'apparition du fax et du téléphone mobile. Le numéro de téléphone à 10 chiffres, en fait, ça date de 1996. Les vieux crocodiles s'en souviennent peut-être. C'est aussi l'année de l'apparition du 06. Et en 2010, c'est le 07 qui faisait son entrée. Pour l'adresse IP, c'est pareil. Le format actuel, il a été inventé pour les besoins des années 1970. Et jusqu'ici, les développeurs d'Internet, ils ont réussi à le rafistoler. Et ça marche tant bien que mal. Mais d'ici quelques années, il va falloir l'abandonner au profit d'un nouveau format mieux adapté aux besoins actuels. Vous pouvez voir à quoi ressemblera une adresse IP dans quelques années. Elle est plus longue et donc il y a plus de possibilités. Les ordinateurs, ils peuvent facilement retenir des longues séries de nombres, mais pas nous. Ce serait trop difficile de retenir l'adresse IP de chacun des sites qu'on visite. Pour nous faciliter la vie, il y a des annuaires sur Internet qui nous renseignent. Comme avant, pour le téléphone, il y avait les pages blanches. C'est la toute première étape pour envoyer une requête au serveur qui héberge le site de Lutte Ouvrière. Il faut que l'ordinateur d'Alice demande à un annuaire quelle est l'adresse IP associée à lutteouvrière.org. Et l'annuaire répond 5.135.94.231. Donc Alice connaît l'adresse de son destinataire. Et elle a sa propre adresse IP 58.92.13.221. Pour que la requête d'Alice parvienne au serveur, ça fonctionne un peu comme l'expédition d'un colis. Quand deux personnes s'envoient un colis, l'expéditeur le dépose chez un transporteur et le colis est acheminé au destinataire en passant par plusieurs centres de tri. Eh bien, de la même manière, pour que la requête d'Alice atteigne le serveur, elle va passer par l'équivalent des centres de tri sur Internet qu'on appelle des routeurs. Ce sont des ordinateurs un peu particuliers dont le rôle est d'acheminer les requêtes entre l'expéditeur et le destinataire. L'ordinateur d'Alice transmet la requête à un routeur, qui à son tour transmet la requête à un autre routeur, qui va lui-même la transmettre, etc., jusqu'à arriver à destination. Ici, vous pouvez voir à quoi ressemblent des routeurs. Il y en a quatre, empilés dans une armoire. À chaque routeur, on peut connecter 36 câbles réseau ROSE, capables de transporter chacun 100 gigabits par seconde de données. C'est-à-dire qu'avec ces quatre routeurs, c'est en théorie possible de fournir des vidéos haute définition en streaming à plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs en même temps. Elles paraissent loin, les années 2000. Et donc Internet, ça n'est jamais que cet ensemble d'annuaires et de routeurs interconnectés. Alors, comment est-ce que chaque routeur sait à qui il doit transmettre la requête? Autrement dit, comment trouver le chemin entre Alice et le serveur? Parmi les nombreux routeurs d'Internet, il y en a qui appartiennent aux fournisseurs d'accès Internet, Free, Orange, etc. Quand vous signez un contrat chez Free ou SFR, mettons Free, c'est Free qui vous donne votre adresse IP. Comme Free sait où vous habitez physiquement, les routeurs de Free sont capables de vous transmettre directement les requêtes qui vous sont adressées sans demander à un autre routeur. Donc si une requête qui vous est adressée parvient jusqu'à un routeur de Free, il saura vous la transmettre. Et ce que vont faire les routeurs de Free, c'est communiquer cette information aux autres routeurs d'Internet. Ils vont faire passer le message. Si tu as une requête pour 58.92.13.221, qui est l'adresse IP de Alice, alors passe-la moi, c'est Alice, je la connais, je saurai lui transmettre. Le routeur qui a eu l'information la transmet à son tour aux autres routeurs autour de lui. Les routeurs de tous les fournisseurs d'accès du monde font la même chose, avec aussi des routeurs qui appartiennent aux États. Et de cette manière, tous les routeurs d'Internet vont communiquer en permanence entre eux pour s'échanger des informations qui leur permettent de choisir au mieux le chemin à emprunter pour chaque requête. Alors vous le savez peut-être pas, mais chez vous, il y a sans doute un routeur, le tout premier que vont emprunter les requêtes qui partent de votre ordinateur. Ce routeur, c'est votre box Internet. Cette box, elle va acheminer vos requêtes, par exemple via le réseau souterrain de fibre optique, jusqu'à un routeur central de Free si vous avez un abonnement chez Free. Et à son tour, ce routeur central va acheminer la requête jusqu'à sa destination, c'est-à-dire le serveur qui héberge le site lutteouvrière.org. Ici, vous voyez le chemin exact que suit la requête quand j'entre lutteouvrière.org dans mon navigateur. Pour vous, ce chemin, il serait différent. Elle passe d'abord par ma box Internet, puis par quatre routeurs successifs de Free, dont le dernier est à Aubervilliers, puis enfin par deux routeurs de OVH, l'entreprise qui possède le data center dans lequel se trouve le serveur qui héberge le site web de Lutte Ouvrière. Là, vous voyez que j'ai représenté une requête envoyée par Alice au serveur, mais sans faire figurer tous les routeurs intermédiaires pour clarifier le dessin. Mais on se souvient qu'ils y sont. Une fois que le serveur reçoit la requête, il doit la traiter. C'est-à-dire qu'il doit chercher sur son disque dur le contenu de l'éditorial, les images qui sont sur la page, et une fois qu'il a récupéré toutes ces données, il n'a plus qu'à renvoyer la page en utilisant exactement la même procédure qu'elle allait. La réponse va être transmise à des routeurs de proche en proche, et la page s'affiche dans mon navigateur. Alors vous voyez, j'ai mis à titre indicatif la durée de chaque étape. La requête met environ 5 millisecondes pour parvenir jusqu'au serveur. Le serveur met 200 millisecondes pour la traiter. Puis la réponse met 15 millisecondes pour arriver jusqu'à Alice. Alors, sous quelle forme revient la réponse du serveur? Ce que je vois dans mon navigateur, c'est du texte. Mais pas simplement du texte brut. Il y a une structure. Des titres, des paragraphes, des liens entre pages, même des images. Et pour décrire à mon ordinateur cette structure, le serveur va renvoyer la page dans un format, on dit aussi un langage, qui est fait pour ça et qui s'appelle HTML, pour Hypertext Markup Language. Alors quand vous faites du traitement de texte, les fichiers que vous manipulez ont un format document, .doc ou .odt. Quand vous utilisez un tableur, vous manipulez un format tableur, .xls. Et bien quand on manipule une page web, elle est au format HTML, .html. Dans le tableau, vous pouvez voir comment on écrit dans le langage HTML un titre. C'est simple, il suffit d'écrire le titre entre deux balises H1. Pour le paragraphe, c'est la même chose avec des balises P. Et le lien hypertexte. Alors, vous savez, c'est ce texte sur lequel on peut cliquer avec la souris et qui nous emmène vers une autre page. Sa représentation en HTML est un poil plus compliquée, mais l'idée est la même. On utilise une balise A et on spécifie le texte du lien et l'adresse vers où il pointe. Dans mon navigateur web, je peux afficher le code HTML de la page que je visualise. Vous voyez, le HTML, le code, apparaît dans cette partie. En survolant avec la souris, je peux voir quelle partie du code HTML correspond à ce que je vois. Par exemple, si je clique sur le titre, eh bien, on voit ici le titre, une classe dirigeante et un système social à renverser, et on voit qu'il est entre deux balises H1 dont je vous ai parlé. Si je change cette balise H1 en une balise P, pour paragraphe, eh bien, le titre s'affiche maintenant comme du texte normal. Alors évidemment, en faisant ça, j'ai simplement modifié le contenu de la page que le serveur m'a renvoyée et qui se trouve maintenant sur mon ordinateur. J'ai pas touché à la page d'origine qui est située sur le serveur lutteouvrière.org. Si j'actualise la page, eh bien le titre s'affiche à nouveau. Ce langage HTML, qui permet de décrire la structure d'une page web, Il date de 1989 et il a continuellement évolué depuis, en même temps que s'est enrichi le type d'informations qu'on peut s'échanger sur Internet. De la même manière que la langue française a évolué depuis le Moyen Âge, parce qu'on a eu besoin de termes comme téléphone ou automobile pour désigner de nouvelles inventions. L'inventeur du HTML et de la toute première page web, il s'appelle Tim Berners-Lee. Alors maintenant, il faut dire Sir Berners-Lee, parce que depuis, il a été anobli par la reine d'Angleterre. Et oui, tout n'a pas encore évolué depuis le Moyen Âge. C'est un ingénieur qui, à l'époque, travaillait au CERN, le Centre européen pour la recherche nucléaire. C'est un institut qui compte plusieurs milliers de scientifiques de plus de 100 pays différents. Et Tim Berners-Lee, il regrettait que la dispersion des scientifiques dans des universités différentes, dans des pays différents, soit un obstacle à la circulation des idées entre eux. Et il a eu l'idée géniale d'utiliser Internet pour partager des informations entre tous ces scientifiques et surmonter les barrières des différences de pays et d'universités. Son idée, le World Wide Web, WWW, qu'on peut mal traduire en la toile mondiale, c'était que chaque scientifique du CERN puisse créer des pages reliées entre elles et reliées à celles des autres scientifiques par des liens hypertextes, et que chacun puisse se promener de lien en lien à l'aide d'un programme informatique dédié, un navigateur web. Le cœur de cette construction, c'est le lien hypertexte qui relie les pages entre elles. Cette idée, Berners-Lee, il l'a empruntée à un autre scientifique, Van Warbusch, qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, était préoccupé par la démultiplication des connaissances scientifiques, qui rendait très difficile, même pour les spécialistes, de suivre l'avancée des travaux de recherche. Il expliquait que un des problèmes, c'était la façon dont les articles scientifiques étaient indexés dans les revues et les encyclopédies. Voilà ce qu'il disait dans son article, As We May Think. Quand des données sont stockées, elles sont rangées dans un ordre alphabétique ou numérique. Le cerveau humain ne fonctionne pas de cette manière. Il agit par association. Il saisit un objet, puis saute immédiatement à un autre par association d'idées, en raison de l'organisation en réseau des neurones. Et il proposait un modèle imaginaire de machine, le MEMEX, pour Memory Extender, extenseur de mémoire, qui était une anticipation du navigateur web et du moteur de recherche, c'est-à-dire de Firefox et de Google. Pour que cette anticipation géniale voie le jour, il a quand même fallu encore 45 ans de recherche scientifique, notamment l'invention du transistor, ce composant électronique qui est présent aujourd'hui en milliers de milliards d'exemplaires dans chaque ordinateur. Depuis ses débuts, la toile s'est étendue bien au-delà de la communauté scientifique, au point qu'aujourd'hui, on confond souvent Internet et le web. En fait, Internet, c'est le réseau physique d'ordinateurs interconnectés. Le web, c'est le réseau des pages reliées entre elles par des liens et qu'on visite avec un navigateur. Donc quand on s'échange des messages WhatsApp sur son téléphone, eh bien on passe par Internet, mais on n'utilise pas le web. Pour les amateurs d'archéologie, voilà à quoi ressemblait le tout premier site web de Tim Berners-Lee. Aujourd'hui, ça nous paraît fade, uniquement un titre, du texte et des liens. Et pourtant, c'était une innovation brillante qui a posé les jalons de Facebook, Google et des autres. Cette première page ne contient pas d'image. En fait, ça n'était même pas prévu par le langage HTML à l'origine. Ça n'est venu que plus tard, en 1995, lorsque la balise image a été ajoutée. Et dans les discussions entre développeurs de HTML à l'époque, l'un d'eux s'était opposé à l'introduction de la balise image en disant « Si aujourd'hui on ajoute une balise image, alors la semaine prochaine quelqu'un proposera d'ajouter une balise audio. » Et effectivement, en l'espace de 25 ans, HTML s'est vu augmenter non seulement d'une balise audio, mais aussi d'une balise vidéo et de plein d'autres encore qui correspondent à des usages qui se sont développés depuis. Alors je vais terminer en parlant rapidement de sécurité. Rappelez-vous, quand ma requête est transmise au serveur, elle va passer de routeur en routeur pour être acheminée. En fait, une requête, elle contient généralement un peu plus que simplement la page à laquelle je veux accéder. Par exemple, si j'essaye de me connecter à ma boîte mail, en plus de la page, je vais devoir fournir dans ma demande mon nom d'utilisateur et mon mot de passe pour prouver au serveur mon identité. un routeur par lequel la requête va transiter, voit mon adresse IP et celle de mon destinataire, et comme une adresse IP identifie quelqu'un, eh bien le routeur sait sur quel site je me connecte. Par défaut, il peut même avoir accès au contenu de la requête, c'est-à-dire au nom d'utilisateur, au mot de passe, et aussi au contenu de la réponse. Quand je dis que le routeur a accès à ces informations, ça veut dire que l'entreprise qu'il possède y a accès et peut éventuellement partager ces informations avec d'autres entreprises ou avec des États. Mais un routeur peut faire plus que lire le trafic. Il peut aussi le modifier. Normalement, quand Alice demande le dernier éditorial, la requête est acheminée jusqu'au serveur de lutte ouvrière et la réponse lui parvient. Mais rien n'empêche un routeur malicieux sur le trajet de modifier le contenu de la réponse et de renvoyer un faux contenu. Alice, elle pensera qu'elle a lu le dernier éditorial et en fait, pas du tout. On appelle ça l'attaque de l'homme du milieu. Alors ça peut devenir vraiment embêtant quand on échange sur Internet non pas des articles publics, mais du contenu privé comme des emails. Ça a été une préoccupation dès le milieu des années 1980, notamment pour les milieux d'affaires, parce qu'ils commençaient à avoir recours à Internet et ils étaient soucieux de préserver leurs secrets commerciaux vis-à-vis de leurs concurrents. Il y a un programme de recherche pour sécuriser les communications qui a été lancé à l'initiative de la NSA, qui est une agence de renseignement américaine, avec l'aide d'entreprises comme IBM, Motorola ou Bell Labs. Voilà comment ils motivaient leurs travaux. Pendant les années 1980, il y a eu une explosion de la quantité d'informations qui circulent dans les systèmes informatiques. Malheureusement, ça ne s'est pas accompagné de mesures de sécurité pour protéger les données. L'exploitation de nos communications par d'autres pays pourrait menacer notre avantage dans la compétition économique internationale. Alors, les États-Unis n'ont pas du tout le monopole de l'espionnage industriel, tous les États y ont recours, hein, dont l'État français, avec certainement moins d'efficacité parce que moins de moyens financiers et militaires. Mais l'intention est la même. Ces travaux de sécurité informatique, ils ont abouti, et aujourd'hui, une bonne partie du trafic sur Internet se fait de façon chiffrée. C'est-à-dire que le contenu des messages échangés n'est lisible que par les interlocuteurs. C'est le cas lorsque, dans votre navigateur, vous voyez à gauche de l'adresse du site un cadenas vert. Les routeurs qui transmettent la requête et qui renvoient le contenu ont toujours accès à l'adresse IP de Alice, à celle de son destinataire, mais le reste leur apparaît comme du texte indéchiffrable. Donc si Alice ouvre sa boîte mail Google dans son navigateur Internet pour lire ses mails, il n'y a que elle et Google qui peuvent lire le contenu. Alors ça permet aussi, sinon de neutraliser, en tout cas de rendre beaucoup plus difficile un certain nombre d'attaques, dont celle de l'homme du milieu que je vous ai montré. Alors, la façon dont se fait le chiffrement des données quand elles circulent sur Internet, c'est solide, c'est vérifiable, c'est-à-dire que le code des programmes qui effectuent ce chiffrement est consultable par tout un chacun, y compris par des experts en sécurité qui ont intérêt à ce que ça fonctionne correctement. Mais c'est déjà arrivé de trouver des failles de sécurité, même dans les programmes de chiffrement qu'on pensait absolument sûrs. En 2014, Google a découvert une faille dans un programme de chiffrement utilisé par la quasi-totalité des serveurs informatiques. Cette faille, elle était présente depuis 2012 et des journalistes ont affirmé qu'elle avait été exploitée par la NSA, l'agence de renseignement américaine. Mais de toute façon, on a beau utiliser les applications les plus sécurisées, celles qui promettent le chiffrement le plus robuste, bah même quand c'est vrai, ça n'empêche pas que si quelqu'un regarde par-dessus votre épaule et vous voit taper sur le clavier, alors il connaîtra le contenu du message. Et plus généralement, les spécialistes de sécurité informatique, il considère que si quelqu'un a eu un accès physique à un ordinateur, alors il peut tout faire, tout déchiffrer, ne serait-ce que parce qu'il a pu installer dans le clavier un petit dispositif électronique qui enregistre toutes les touches qui sont tapées et qu'on peut consulter plus tard. Glenn Greenwald, c'est un journaliste américain qui a eu accès aux révélations du lanceur d'alerte Edward Snowden. Eh bien, ce journaliste a révélé que la NSA intercepte des colis postaux de matériel informatique, les trafique, puis réexpédie le colis ni vu ni connu. Et face à ça, même le meilleur programme de chiffrement, il est impuissant. Alors, pour terminer cet exposé, je voudrais vous montrer un exemple de choses qui peut se passer, non seulement si quelqu'un a eu un accès physique à votre ordinateur, mais même sans ça, si votre ordinateur a été contaminé lui aussi par un virus qui permet à un pirate d'accéder au fichier de l'ordinateur.
Alors, mettons que vous avez un compte sur le site du journal lemonde.fr. On peut se connecter en donnant son email alice.exposé-hello@protonmail.com, mot de passe alice 1, 2, 3, 4. Donc, en validant, on va envoyer une première requête au site web avec l'email et le mot de passe. Et c'est bon, le site nous a reconnus, il sait qui on est. Alors, ce qui peut sembler étonnant, c'est que maintenant, si on fait une deuxième requête, par exemple en demandant le contenu d'un article, ou même en se connectant la semaine prochaine ou dans 10 jours, eh bien, le site se souviendra qu'on est connecté en tant qu'Alice, sans même qu'on ait besoin de fournir à nouveau le nom d'utilisateur et le mot de passe. On l'a fourni une seule fois au moment de la première requête. Alors comment est-ce que ça, c'est possible?
Eh bien, c'est le rôle des cookies. Ce sont des petits fichiers qui sont stockés sur l'ordinateur et qui permettent, entre autres, de prouver son identité. Quand Alice fait une première requête vers le site pour se connecter, en même temps que la page, le serveur va lui renvoyer un petit texte aléatoire, impossible à deviner si on ne le connaît pas. Et il va enregistrer qui lui a envoyé ce texte. À part Alice, personne n'est capable de fournir ce petit texte, et donc si quelqu'un le fournit, bien le serveur peut être sûr qu'il s'agit d'Alice. Le navigateur web d'Alice, il stocke aussi le texte aléatoire dans un petit fichier hein, qu'on appelle donc le cookie. Lors des requêtes suivantes, le navigateur d'Alice, il ajoute le contenu du cookie à la requête, et pour le serveur, c'est une preuve de l'identité d'Alice. Il n'a donc pas besoin de redemander le mot de passe. Mais ça veut dire que si quelqu'un a accès au cookie, alors il peut se faire passer pour Alice.
Dans le navigateur Firefox, je peux retrouver tous les cookies qui ont été installés par le site que je visite. Donc là, ici, je vois tous les cookies déposés par le site Le Monde et il y a une ligne par cookie. Et parmi tous ces cookies, il y en a un qui est responsable du fait qu'il n'y a pas besoin de redonner son mot de passe à chaque fois. C'est celui-là, qui s'appelle LMD underscore A underscore M. Et dont la valeur, que on peut lire ici, c'est effectivement impossible de le retrouver. On ne peut pas l'inventer. Mais maintenant, supposons donc qu'un virus ou quelqu'un ait pu avoir accès à votre ordinateur et soit capable de lire le contenu du cookie. Eh bien, ce qu'il peut faire chez lui, alors je vais faire ça moi dans un autre navigateur, mais ça marcherait sur un autre ordinateur. Donc je me connecte au site Le Monde. Donc, vu qu'on n'a pas donné le mot de passe et l'identifiant, le site ne sait pas qui on est. Mais on peut aller aussi dans les cookies de ce navigateur, c'est Chrome. Et je rajoute un cookie, LMD underscore A underscore M. Je donne le contenu. Voilà, maintenant je peux fermer ça. Et si je recharge la page, eh bien, voilà, le site pense que je suis Alice.
Alors, se faire usurper son identité sur un site d'information, c'est pas forcément dramatique. Mais ça fonctionne de la même manière pour le site d'une banque ou pour un compte mail, et là, ça peut être beaucoup plus embêtant. J'ai dit tout à l'heure que la sécurité d'Internet, c'est une préoccupation pour les entreprises et leurs États. Dans le capitalisme, rien n'échappe à la loi du profit, et Internet ne fait pas exception. Une déclaration d'un informaticien qui travaille dans une grande entreprise publicitaire qui traque les utilisateurs en ligne pour leur proposer des annonces ciblées, ce qu'il a dit, c'est révélateur de ça. Il a dit, l'entreprise où je travaille dispose de milliers de serveurs qui utilisent les technologies les plus performantes, développées par les cerveaux les plus brillants. Et tout ça, pourquoi? Pour faire acheter des slips sur Internet. C'est un gâchis monstrueux. Dans une société communiste, débarrassée de la loi du profit, ces technologies et ces compétences seraient infiniment mieux utilisées. Elles pourraient par exemple permettre d'anticiper les épidémies de grippe et de suivre leur évolution en analysant le nombre de fois que nez qui coule ou mal à la tête a été saisi dans un moteur de recherche, et en combinant ça avec les statistiques des hôpitaux. Ces technologies, elles permettraient non seulement d'anticiper, mais elles seraient un point d'appui formidable pour produire et acheminer correctement les médicaments. Plus largement, dans une économie socialiste, un réseau comme Internet pourrait être un outil dont n'auraient même pas rêvé les révolutionnaires du passé pour recenser les besoins humains et y répondre en planifiant la production. Mais pour ça, il faudra d'abord renverser le capitalisme et faire la révolution. Et ça se fera pas sur Internet.